Voilà, retour dans notre invité du jeudi avec Gilbert Duflot. Alors, on disait, on va parler de légende. Alors, qui dit légende dit invention. Parfois, il n'y a pas d'invention, mais c'est une légende. On a entendu ça. On peut dire peut-être, je ne sais pas si Gilbert me dira le contraire, que la légende, on peut le comparer un peu à la rumeur, hein, parce que il y a une rumeur, alors on dit des choses parfois, c'est la rumeur, hein, qui a dit ça, parfois c'est pas vrai, parfois c'est vrai. On dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors donc cette légende qui s'appelle la légende du mordant diable, eh bien Gilbert va nous parler de cette légende qui en fait apparemment a été inventée de toutes pièces.
Oui, bonjour. Oui, alors elle a été inventée par une vieille famille d'Allègre qui a trouvé, on ne va pas tout dire, c'est une légende, on ne va pas tout révéler, donc qui a trouvé une sorte de tête. Peut-être à la fin quand même, je ne sais pas, peut-être qu'on révélera un peu, mais bon, pas au début quand même. Donc ils ont trouvé une tête et puis ça leur a donné tout d'un coup l'idée d'une légende qu'ils ont créée de toutes pièces, qui a été adoptée par les habitants. On ne sait pas à quelle époque, vraiment, probablement pas avant le 19e peut-être, mais oh, je ne crois pas, devait être au début du 19e, c'est un peu la période de ce genre de légende. Mais ce qui est bien à Allègre, c'est que les Algras y tiennent énormément. Comme on dit, si tu sautes pas, t'es pas français. Si tu sautes pas, t'es pas Algras. Si tu crois pas à la légende du mordant diable, non, t'es pas Algras. Non, non. Parce que les Algras, ils aiment cette légende tous. Elle est pas marrante, mais on y tient. Alors, pour rêver un peu, moi, j'ai imaginé que ça pouvait être un chroniqueur du 14e notamment, qui s'appelle Jehan Froissart et qui voyageait beaucoup entre le Béarn pendant les combats de la guerre de Cent Ans. Qui voyageait beaucoup entre le Béarn, la cour des ducs de Béarn, et sa Picardie natale, la Somme actuelle, Jehan Froissart. Et il était très connu, et sa silhouette même est légendaire, sur un cheval blanc, et accompagné d'un lévrier gris tueur de loups. Rien que ça, déjà, ça me fait rêver. Et en plus, on sait qu'il avait une besace rouge jetée en travers de la croupe de son cheval. Voilà. Alors moi, j'ai imaginé que c'était lui qui avait amené cette légende à Allègre. Alors, à Allègre, mais dans le bas d'Allègre, qui sera le faubourg, et qu'on appelait Grazac avant que ça fasse partie de la commune d'Allègre, près de son église, cet endroit humide avec le mordant d'air qui était une espèce d'étang qui récupérait les eaux sales, on avait de nombreuses tavernes. Et évidemment, les rumeurs prenaient naissance dans ces tavernes-là. Et c'est là que, Jehan Froissart, qui s'est arrêté pendant quelques instants, a inventé cette légende que les paysans de l'époque ont entendue. Et il faut imaginer qu'au XIVe siècle, par exemple, là où se situe la légende, donc Allègre était, on va dire, gouverné, entre guillemets, par un baron. Et le pays, le Velay, était traversé par des bandes de mercenaires qui n'avaient plus d'emploi, il n'y avait plus de combat. Il y a eu une longue trêve à partir de 1361. Et pendant cette trêve, les mercenaires n'étaient plus payés. Il fallait qu'ils se nourrissent. Ils se nourrissaient sur le dos de l'habitant. Donc souvent, on avait des bandes comme ça de 2 à 3 000 personnages à pied, à cheval, qui venaient de Bourgogne, qui venaient de Guyenne, la Guyenne anglaise, et qui allaient vers la Bourgogne, qui à cette époque-là était encore alliée de l'Angleterre. Et ils ravageaient le Velay, alors que les récoltes étaient excellentes, le climat était doux à l'époque. Donc c'est dans ce climat terrible de combat, de ce qu'on appelait des méchefs, des touillis, des revels. C'est à cette époque-là qu'est née cette légende. Alors, on ne va pas dire il était une fois, on va dire en ce temps-là, un puissant seigneur d'Allègre imposait sa loi entre volcans et plateaux granitiques. Il était lourdement endetté, mais nul créancier, qu'il soit gros fermier ou petit paysan, n'osait lui réclamer son dû, tant il terrorisait ses vassaux et le petit peuple de sa baronnie, qui s'étendait de Fix jusqu'à Chomely-le-Haut. Et pourtant, des impôts, il en faisait payer. La taille, les péages sur la borne, des taxes de toutes sortes. Mais il ne payait pas ce qu'il devait. Un soir, cependant, dans une des tavernes du Bas d'Allègre, qu'on nommait Grazac, un brave sergent, qui avait fort abusé du vin au miel et aux épices, se vanta. Il se prétendit capable de monter au château et de revenir avec tout l'argent des dettes. Comme ça, tout d'un seul coup, voyà, vantard. Notre pauvre seigneur, disait ce pauvre... Notre seigneur baron, disait ce pauvre petit sergent, fut-il le diable, en personne, je le mordrai jusqu'à ce qu'il paye. Là, vous avez les deux mots. Vous avez « fut-il le diable, je le mordrai jusqu'à ce qu'il paye, au bougre ». Et pouf, il s'était endormi là-dessus, en travers de la table, renversant son gobelet qui tinta en rebondissant sur le carrelage et y ronfla tout son sou et toute la nuit. Et oui, mais le lendemain matin, aïe, 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 il était dégrisé, le pauvre sergent. Ben oui, mais il avait promis et il voulait pas perdre la face. Alors voilà notre pauvre sergent qui monte, tout tremblant, vers le pied de la forteresse, perché au sommet du mont Bourri. Si vous visitez Allègre, vous prendrez le même chemin, mais le baron n'y est plus, vous pouvez y aller. Au pas bien costaud, notre sergent, frêle carcasse, pas bien grand, pas bien épais, et pas bien capable non plus. Mais comme on dit, comme chacun sait, les incapables, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors comme on dira en patois, « Oh, plus du paugi que du zaï, c'est un plus du poussin que du coq ». Alors il monte doucement et pendant tout ce temps-là, évidemment, les regrets poussent en lui, il se dit « Mince, qu'est-ce que j'ai dit hier ? Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Alors, moins essoufflé qu'effrayé, il arrive au pied du château, il se racle la gorge, il avale sa salive, il hésite encore, et tout tremblant, il cogne, toc, 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 à la lourde porte en bois bardée de gros clous forgés en fer et de renforts massifs. Et d'une voix plus blanche que blanc, il susurre « Un capitaine, barbu et pansu, qu'il avait vu arriver, le casque à visière vissé sur le crâne et l'épée au côté, l'empoigne et pff, le fait entrer. Suspendu à la poigne du bras du capitaine, des petites jambes pédalant dans le vide, il traverse la cour d'honneur où le moindre chuchotement résonne jusqu'à Barre. Entre le mont Bourri et le mont Barre, il y a un écho exceptionnel. Et là, il n'en menait pas large. Derrière lui, les battants se referment, menaçant dans un grand bruit de tonnerre. Le poussant devant lui, le capitaine lui fait escalader l'escalier de pierre de la tour du trésor. Il hurle pour présenter le sergent, déjà liquéfié et qui claque des dents. Le féroce baron le reçoit dans la grande salle voûtée. D'énormes bûches flambent en crépitant dans l'immense cantou armoirié d'une tour blafarde sur champs de gueule et de sang. Les armoiries de la maison de Tourzel, c'est de gueule à une tour d'argent. De lourdes tapisseries pendent au mur, accrochées au plus haut portant pour couper le froid. Quand on voulait couper le froid des murs de pierre, on montait les tentures sur des crochets qui étaient plus hauts. Quand il faisait moins froid, on les redescendait. Et les fenêtres ne laissaient entrer qu'un peu de faible lueur du matin. La silhouette du seigneur, vautrée dans son fauteuil de bois noir, sculpté de têtes de lion, se détache à peine de l'ombre. Tout à côté du lourd plateau sur tréteau, garni de pâtés gras fumants, de lièvres ruisselants et de cuisseaux brûlants, spectral. D'un vaste geste, volontairement équivoque, le baron fait mine d'inviter notre pauvre petit sergent à s'approcher. Et partagerait-il son repas du matin ? Est-ce qu'un peu d'admiration lui serait venue en face de ce courageux petit bonhomme ? Notre flux et messager entr'ouvre la bouche, il songe aux mille excuses dont il a l'intention de fleurir le prologue de ses futures explications. Il cherche le premier mot des prolégomènes de son éloge. Et il est bien embêté, il se demande comment il va présenter ça. Il dit, ben oui, si je demande les sous au baron, il va pas aimer. Mais il n'a même pas le temps d'articuler le début, le commencement du début, que le baron fait accourir son forgeron. Dès la veille au soir, les espions du baron l'avaient instruit des vantardises avinées du sergent. Et oui, dans la taverne, le baron avait ses espions. Et depuis la veille au soir, il savait que le pauvre sergent allait venir. Et le forgeron de son immense bras gauche immobilise notre coquelet, bec ouvert, et de sa poigne droite bracelet de cuir, lui arrache une à une toutes les dents. Enfin bon, celle que les chicots n'avaient pas déjà ruinée. D'un grand coup de pied, là que la décence vous interdit de nommer, le sergent désespéré et sanguinolent est jeté en bas des redans de la forteresse sous les rires énormes du baron. Ben, le v'là sans dents, le pauvre baron, le pauvre sergent, et tout sanguinolent. Mais c'est que c'est pas fini. Il redescend à Grazac. Mais c'est que les gens se moquent de lui. Et sous les colibés populaires, il s'installe dans la taverne. Mais bon, il a plus de dents, il a la bouche tout en sang. Et c'est peut-être de là qu'on dit « Un seul Dieu honorera, et d'un algrat te méfiera. Hein, quelquefois, il faut se méfier des copains. » Et depuis ce triste jour, le malheureux sergent, figé dans la pierre et surnommé « le mordant diable », hurle sa douleur à chaque fois qu'un grand vent du midi burle sur Allègre, la burle qui rend fou. Et à l'époque, il burlait assez souvent, dit la légende.
Donc c'est cette légende du mordant diable, voilà. Donc oui, c'est une légende, hein, mais oui. Donc c'est, tu le disais, c'est une tête de fontaine en fait.
Oui.
Et il y avait un tuyau qui traversait et voilà, qui laissait s'écouler l'eau.
Oui. Alors ce pauvre sergent auquel on a arraché les dents, on imagine qu'il avait la bouche toute ouverte, vide quoi, sans dents du tout. En fait, la légende vient de ce qu'une famille ancienne qui était installée depuis le XIVe siècle à Allègre et qui est encore, a trouvé, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, a trouvé ce qu'on appelle un mascaron de fontaine. Donc c'est une sorte de masque qui était taillé dans les pierres les plus hautes d'une fontaine, peut-être ce qu'on appelle la fontaine d'Armand, la fontaine du baron Armand, baron d'Allègre. Et comme le tuyau sort par la bouche, ça fait une bouche toute ronde et toute vide. Et c'est vrai qu'on imagine que ce pauvre masque, on lui a arraché les dents. Donc ça a fait naître cette légende. C'est un masque évocateur, assez tragique d'aspect. Ses yeux sont clos, ses paupières sont baissées. La pierre est assez fruste, c'est une pierre blonde, un peu grisâtre. Et il y a cette grande bouche ouverte, béante, par où sortait le tuyau de la fontaine.
Personne n'a pensé y mettre un dentier.
Oh Jean-Pierre,
et je rigole.
Mon Dieu. Tu sais qu'attention, il y a la potence.
Hein. Ouais. Gilbert va avoir une dent contre moi.
Oui, c'est fait. Ça y est, j'ai une dent contre Jean-Pierre.
Non, mais trêve de plaisanterie. Ouais, ben c'était sympa, la légende du mordant diable. Voilà. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans la région qui ne connaissent pas. Bien maintenant, vous qui ne la connaissez pas, maintenant vous la connaîtrez, cette légende. Mmh. Et on peut voir ce masque à Allègre, pas pour le moment.
Il est comment dire, enchâssé dans le mur d'une petite maison, tout à fait dans le bas d'Allègre, dans ce qu'on appelle les rues vieilles. Si vous demandez aux habitants d'Allègre où est le mordant diable, ils vous guideront et vous finirez par le trouver. Il est assez haut, il est au niveau du premier étage. Et l'association des Amis d'Allègre, dont je m'occupe, a l'autorisation du maire actuel, Gilbert Messonnier, de placer un moulage de ce masque, de ce mascaron de fontaine, très près de la potence. Donc cet été, il n'est pas certain que vous le voyez déjà, mais ça va venir et bientôt le pauvre mordant diable aura retrouvé le château où pourtant il n'a que des mauvais souvenirs.
Très bien, voilà, bien, on en a terminé aujourd'hui, Gilbert. Hein, je pense qu'on a fait le tour du sujet.
Merci.
Juste, on a 2-3 minutes pour dire que. Mais il y a la fête de la Noire qui arrive à grands pas. Donc c'est le premier week-end d'août.
Oui, c'est le 7 août cette année, la fête de la Nère. La Nère, c'est la, voilà, c'est la Noire, c'est-à-dire la brebis noire du Velay, qui est une race ovine, une race de brebis locale, endémique, qui n'existe qu'ici. Un peu en Suisse, parce qu'ils ont copié sur nous. Ils ont importé notre race. Mais c'est une race d'ici, la brebis noire du Velay. Et donc, on lui fait une fête tous les ans, le premier dimanche du mois d'août cette année. Donc, c'est le dimanche 7 août.
Et là, c'est pas une légende. Hein,
c'est pas une légende.
Où on vous attend très nombreux. Et puis, en même temps, ben, vous pourrez aller visiter Allègre.
Voilà.
Ben, Gilbert, merci encore une fois d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé un peu de cet Allègre que... Au travers de... On sent que tu aimes beaucoup hein, cette commune d'Allègre, hein, parce que tu nous expliques plein de choses. Et tu as beaucoup travaillé, je pense, pour nous raconter toutes ces choses.
Ben, c'est passionnant. Moi, mon père y est né, j'y suis depuis 13 ans. Et déjà à Paris, avant, j'avais commencé à travailler un petit peu sur, aux Archives nationales sur Allègre. C'est un côté... non, pas désespérant, surtout pas, mais c'est émouvant de travailler sur un château qui a disparu, une commune qui a quand même perdu une grande partie de son éclat, et de penser aux habitants, par exemple l'hiver, quand il y a un peu de neige, un petit peu plus de neige, on est là serré les uns contre les autres un peu, donc c'est attachant, c'est une famille, c'est pas typique d'Allègre, c'est tous nos villages de montagne, mais c'est probablement un petit peu plus attachant que d'autres endroits, donc on l'aime.
Merci Gilbert. La prochaine émission, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va la faire, parce qu'on arrive dans la période estivale, mais ça serait peut-être sympa de la faire à cette époque, ça serait complètement différent, parce que vous le savez, si vous ne le savez pas, la profession de Gilbert, c'était architecte, construire des bateaux, enfin dessiner des plans de bateaux. Et comme on est l'été, qu'il y en a qui vont aller faire du bateau, ben peut-être qu'on va faire une émission sur les bateaux. Ça peut être toujours intéressant de savoir comment on dessine un bateau et comment, surtout, il tient sur l'eau.
Je suis piégé, j'étais pas au courant.
Non, mais tu vois, tu l'es maintenant. C'est ça le direct. Merci Gilbert, on se retrouvera donc pour une prochaine émission. Voilà, c'était notre invité du jeudi. Je vous rappelle que cette émission est rediffusé le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et bien sûr, vous la retrouverez dans quelques temps sur notre site. Salut à toutes et à tous.